Chapitre 23. Haro tomba en avant dans une gerbe de sang, le torse transpercé de part en part. Un vol de corbeaux s'égaya en croassant son mécontentement dans un battement d'ailes noires, tandis que Ramos et le garde posté près du portail sortaient leurs armes dans un même mouvement. Ramos, plus rapide, tira une balle dans le masque imperturbable de l'assassin téléguidé, échappant de peu au projectile que son adversaire avait envoyé par réflexe en rendant l'âme. À l'abri derrière la première des deux voitures, Silverman vit les assassins de Haro se ruer vers la maison principale, tandis que deux autres gardes faisaient leur apparition à l'entrée du pavillon, le premier armé d'un fusil, le second d'un Uzi. Le conducteur de la première voiture enclencha la marche arrière, oubliant que son collègue était garé derrière lui. Les pare-chocs des deux autos s'entrechoquèrent violemment, dans une pluie d'éclats de verre. Les propriétaires de l'Uzi et du fusil entrèrent en action. Les vitres des deux véhicules explosèrent. La tôle cria sous un déluge de balles. Les pneus éclatèrent, et les agents prisonniers des autos poussèrent des hurlements qui s'éteignirent presque aussitôt. Silverman se retrouva sous la voiture de tête, sans savoir comment il avait pu se réfugier là. Tourné vers l'avant, il vit Ramos s'écrouler. Sa boîte crânienne avait en partie éclaté. Ses yeux révulsés l'observaient de leurs regards morts au fond de leurs orbites, semblables aux esprits qui continuent de hanter les cavernes de nos lointains ancêtres. Bien qu'il conservât au fond de lui un peu de l'être humain qu'il avait été, Silverman ne crut pas devoir participer à la fusillade. Son sens de l'honneur, autrefois exacerbé, n'avait plus guère de prise sur lui. Il s'était reconnu dans les gardes du ranch. Si terrifiant fut-il, le vide qui les caractérisait produisait sur lui l'effet d'un aimant. Il y voyait à la fois un abîme spirituel et un soulagement à l'idée de ne plus avoir à faire de choix, si bien qu'il attendit la fin de la fusillade, tapi dans sa cachette. Une petite voix lui chuchotait sans fin que son seul but était d'abattre celle qui avait trahi son pays, qui avait trahi le bureau, qui l'avait trahi. La cause était entendue. Il n'avait nul besoin de réfléchir. Il lui suffisait d'accomplir sa mission, enfin libéré de la peur de se tromper, de toute forme de remords. Sa tâche était simple. La tuer, la tuer, la tuer. Un bruit de goutte à goutte, accompagné d'une odeur d'essence, le poussa à quitter son refuge avant que ne jaillissent les premières flammes. Le silence après le massacre était tel que le ranch aurait tout aussi bien pu se trouver sous cloche. Si une brise avait jamais soufflé là, elle s'était envolée définitivement avec les corbeaux. Soudain, un roulement de tonnerre fit trembler l'air, et la pluie s'échappa des nuages. Les conducteurs des deux voitures étaient morts, affalés sur leurs volants respectifs. Les passagers de la seconde voiture avaient réussi à sortir vivants avant d'être fauchés à leur tour. Mais ils avaient trouvé le moyen d'abattre le garde au fusil et son collègue armé d'un Uzi dont les dépouilles ne tarderaient pas à servir de charogne aux corbeaux. Des six hommes du bureau arrivés aux portes du ranch GZ, seul Silverman était encore en vie. Ce massacre ne lui faisait aucun effet. Il l'acceptait comme un fait acquis, sans voir l'intérêt de s'en désoler. Détrempé par la pluie, il réfléchit à la marche à suivre. À 50 mètres de là, un autre garde remontait à grands pas l'allée conduisant à la maison principale, sans se soucier de laisser derrière lui un survivant. À l'image de son collègue mort, il était armé d'un Uzi. Silverman le regardait s'éloigner dans un brouillard de pluie lorsque son portable sonna. Il décrocha, écouta et répondit « D'accord ».